8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Être un couple mixte aujourd'hui, est-ce devenu banal ou est-ce compliqué à vivre au quotidien? Entre les discours racistes qui répètent que le métissage nuit à la pureté de la race et les beaux discours d'intégration qui vendent le couple mixte comme une réponse au racisme, comment les couples d'origine différente conjuguent-ils leur culture? Comment les enfants métis se construisent-ils entre deux parents qui n'ont pas forcément la même couleur de peau? Faire famille dans les couples mixtes, on en parle avec vous qui nous écoutez et notre invité. Bonjour Solène Brun.
Bonjour.
C'est vous qui nous avez inspiré ce sujet. Vous êtes sociologue chargée de recherche au CNRS, spécialiste des questions raciales et autrice du livre « Derrière le mythe métis, enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France ». C'est aux éditions La Découverte. Vous allez nous raconter, vous avez enquêté auprès d'une trentaine de couples, hein, de descendants de couples mixtes. Vous nous direz d'ailleurs pourquoi vous préférez parler de couples mixtes plutôt que métis. Oui. D'ici une quinzaine de minutes, on écoutera également le témoignage d'un couple mixte au Brésil face au racisme ordinaire. Portrait croisé signé Sarah Cozzolino. C'est la correspondante de RFI à Rio de Janeiro. Et vous qui nous écoutez, bien sûr, si vous vivez en couple mixte, n'hésitez pas à nous raconter votre quotidien et surtout la façon dont vous vivez le regard des autres. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Et les voilà, vous voyez le président de la République qui arrive sur le perron. Il est entouré donc par les footballeurs qui le rejoignent petit à petit. L'ambiance est très détendue. Tout le monde sur la pelouse applaudit. Les gens montent, vous voyez, sur les épaules les uns des autres pour essayer d'apercevoir. C'est la fête.
Oui, on a du mal à imaginer qu'on est à l'Elysée quand on voit la liesse populaire.
Hein. Ah ça, il faut reconnaître que c'est pas une ambiance très très fréquente ici, mais ça y est, vous voyez, la Coupe du Monde.
C'est pas tous les jours qu'on gagne la Coupe du Monde non plus.
La Coupe du Monde est là, le président de la République est extrêmement détendu, la musique est plus fort. Je vous laisse écouter l'ambiance parce qu'elle parle d'elle-même.
Oui, on regarde.
Tout le monde est debout, tout le monde a abandonné les petits fours et le champagne. Vous voyez, les bras qui s'agitent. Le Premier ministre a rejoint le Président de la République. Voilà, tout le monde chante maintenant.
Je ne sais pas si vous chantiez parce que vous étiez un petit peu trop jeune, Solène Brun, vous aviez 6 ans à ce moment-là, en juillet 98, la France, championne du monde de foot, célèbre son équipe Black Blanc Beurre. Invité là, c'était à l'époque, c'était par le président Jacques Chirac. Et donc forcément, on parlait de la France Black Blanc Beurre. Expression pas anodine, hein, à double tranchant. Hein, vous commencez très vite comme ça dans votre essai.
Ouais, je commence en effet par rappeler ce moment qui, même si j'étais très jeune, m'a quand même beaucoup marqué. Et je pense que ça a marqué beaucoup des jeunes des années 90. Je pense qu'on a grandi avec cet imaginaire-là. Mais en effet, c'est une expression à double tranchant parce que c'est ce que je rappelle au début du livre. Alors déjà, dans Black Blanc Beurre, les catégorisations demeurent. C'est ce que j'écris. Il y a cette idée que finalement, les groupes restent là et puis on les met côte à côte, mais est-ce que vraiment ils se mélangent? Et puis je pense aussi que ce moment de célébration de la France Black Blanc Beurre, c'est en fait une des composantes de ce que j'appelle dans le livre le mythe métis, c'est-à-dire une représentation finalement assez idéalisée de la société postcoloniale française, c'est-à-dire
d'intégration.
Une société dans laquelle cohabitent des Français descendants de celles et ceux qui ont colonisé notamment le continent africain et les descendants décolonisés. Et en effet, se pose directement la question de l'intégration, comme vous dites.
Et ça renvoie aussi à notre histoire en France, toute la marche des beurs aussi, SOS racisme, hein, c'était dans les années 80 aussi, où là encore, il y avait des discours aussi d'intégration autour du mieux vivre ensemble.
Je pense que ce qui se passe dans ces années-là, c'est-à-dire, à partir du début, milieu des années 80, donc en effet, la marche des beurs, ou la marche pour l'égalité, qui date de 1983, jusqu'à finalement, 1999-2000, je dirais, c'est un moment où, y compris des gens ont, je pense très sincèrement, voulu croire à ce qu'ils appelaient à ce moment-là un dépassement des différences, mais aussi à travers cette idée que j'essaye de décortiquer un peu dans le livre et qui me sert aussi de fil rouge, que finalement, si le racisme c'est de la haine et c'est la haine de l'autre, alors peut-être le remède au racisme c'est l'amour et c'est
les fameux couples mixtes et on en arrive là. D'ailleurs, vous dites couple mixte, hein, pas métis. Hein.
Alors je dis couple mixte pour désigner en fait ces couples en effet de. Alors que dans mon livre, hein, je m'intéresse aux couples mixtes sur la question de la position dans les rapports de racialisation, c'est-à-dire. Pour le dire plus simplement, un couple mixte entre une personne blanche, c'est-à-dire racialisée comme blanche, et une personne non blanche, donc qui peut être racialisée dans la société française comme noire, comme arabe, comme asiatique, etc. Et j'utilise pas le terme métisse, disons moi-même. J'essaie d'ailleurs d'en faire un peu la généalogie, notamment la généalogie coloniale, aussi parce que ce terme, je m'en suis aperçue pendant l'enquête, ne désigne finalement que certains descendants de certaines unions mixtes, disons.
Lesquelles ?
Justement, les descendants de couples blancs-noirs vont souvent, en général, se définir, se décrire assez spontanément comme métis. C'est moins le cas, par exemple, pour des couples franco-arabes, où leurs descendants reprennent moins ce terme-là. C'est lié, je pense, à l'origine coloniale du terme et à comment le terme a été forgé dans les anciennes colonies françaises. Notamment.
Mais j'imagine que quand vous allez enquêter auprès de ces quarantaines de couples, vous êtes sociologue, ce qui vous intéresse, c'est l'angle quotidien quoi, de la famille, comment on vit. Comment vous leur avez présenté votre projet ? Vous n'êtes pas partie sur, vous êtes mon objet de recherche. Comment vous vous avez explicité de façon simple ou pas ? Comment ça a été reçu en fait ?
Et ben, assez simplement, finalement. Ouais. Rencontrés alors par divers biais, par des annonces postées ça et là, par aussi des réseaux d'interconnaissances que j'ai essayé de faire jouer, de remonter un peu et puis de décliner façon boule de neige, on dit ça, nous, les sociologues, pour avoir un échantillon de personnes. Et assez simplement, je disais aux gens que ça m'intéressait de savoir comment les couples mixtes négocier la mixité au quotidien.
Négocier, c'est une histoire de négociation aussi. Hein.
En effet. Et comment il et elle élevaient leurs enfants. Et c'était, je restais délibérément vague aussi pour ne pas induire trop de biais dans ma constitution d'échantillon, pour ne pas avoir des effets de sélection de personnes qui se reconnaîtraient plus ou moins dans les termes que j'employais.
Là, il y a toutes les générations, toutes les classes sociales, c'est pas un panel représentatif, mais c'est assez divers. Hein.
Voilà, j'ai essayé de diversifier, en effet, ça ne peut pas être représentatif parce que je n'ai pas assez de monde, mais en effet, j'ai essayé de faire jouer la génération, parce que évidemment ça joue, ça n'est pas la même chose d'être en couple mixte et d'élever des enfants dans les années 60 en France.
Ou durant la période de Black Blanc Beurre.
Ou durant la période de Black Blanc Beurre, ou en 2010. Et donc ça, c'est important, et je voulais essayer de saisir aussi ce que justement ce contexte faisait aux couples et à leurs enfants. Et aussi, évidemment, de faire varier d'autres éléments. Alors, bien évidemment, la classe sociale, mais aussi le lieu de résidence. Et d'essayer, en effet, d'avoir divers récits, expériences.
Ouais, et vous l'écrivez, Solène Brun, vous êtes demandé à un moment donné si votre propre métissage compliquerait les échanges ou pas. Parce que d'ailleurs, vous en parlez très peu, un peu de votre histoire, un peu, mais pas tant que ça. Hein.
Oui, j'en parle peu, mais j'en parle en effet parce que forcément, puisque je fais notamment de la sociologie qualitative, donc c'est-à-dire que je mène une enquête auprès des gens, donc forcément, mon corps de sociologue est mis en jeu, et donc je me demandais ce que ça allait produire en fait dans les entretiens, de m'entretenir à la fois avec des parents blancs et des parents non blancs, et est-ce que ça allait changer quelque chose qui me perçoive y compris, justement, je ne savais pas exactement comment ils allaient me percevoir. Je pense que c'est d'ailleurs une expérience qui est partagée par une partie des descendants de couples mixtes. C'est cette ambiguïté un peu qui...
Ambiguïté.
Ambiguïté dans la catégorisation. C'est-à-dire que, finalement, les gens parfois hésitent sur la manière dont ils nous positionnent. Alors, souvent, d'ailleurs, par exemple, j'ai pas mal d'enquêtés qui sont issus... d'un parent blanc et d'un parent noir, et qui me disent, finalement, on me prend souvent pour un arabe ou pour une arabe. Ce que j'ai compris, finalement, un peu comme une manière de dire, finalement, peut-être qu'en France, il existe trois grands groupes, les blancs, les noirs et les bruns/arabes. Et donc, finalement, si on est pas vraiment visiblement blanc, mais pas non plus noir, en tout cas pas comme c'est perçu en France, alors peut-être que finalement on est automatiquement assigné à ce très vaste groupe qui est le groupe soi-disant arabe. Je dis soi-disant aussi parce que, par exemple, j'ai des couples franco-iraniens aussi dans mon enquête. Évidemment, par exemple, les personnes d'origine iranienne en France sont très souvent assignées au groupe arabe, alors qu'elles ne parlent pas arabe, ne font pas partie de cette ère culturelle-là. Donc, je trouve ça intéressant aussi de voir à quel point, finalement, justement, dans cette zone d'ambiguïté, ambiguïté au sens où, finalement, les gens n'arrivent pas à déceler, peut-être uniquement à partir des traits physiques, n'arrivent pas à déceler réellement la position raciale. Qu'est-ce qui, du coup, va faire qu'on va être assigné à telle ou telle position? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, de savoir justement qu'est-ce qui fait que, y compris au sein d'une même fratrie, les frères et sœurs n'étaient pas forcément perçus de la même manière par les autres. Et à quoi ça tenait? Sur quoi ça allait jouer? Sur quelle manière de se comporter? Sur quelle manière de se positionner soi-même, etc. Et d'essayer justement de voir s'il y avait peut-être des invariants sociaux là-dedans, de classe, de genre, etc.
Et vous nous direz aussi si cette enquête, quelque part, a révélé peut-être des non-dits aussi au sein du couple et provoqué des réflexions parfois étonnantes. Comment faire famille quand on est un couple mixte? On en parle après le duo tunisien Youma et Rit Kielek sur RFI. كبير جناح ما يرد جناح ما يطير وكيف تحسن ليام حسابي ويبقى جاهدي باقي فقير وكيف نرجع نلبس ثوابي وقلبي يقول كلام يجير ونلبس صغري وكبر السوى نضوي نجمة Thomas sur RFI dans 8 milliards de voisins et de voisines. Être un couple mixte aujourd'hui, est-ce devenu banal? On en parle avec la sociologue Solène Brun, autrice du livre Derrière le mythe métis, enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France aux éditions La Découverte. Solène Brun, je vous propose d'aller au Brésil. Notre correspondante Sara Cozzolino à Rio de Janeiro a rencontré un couple interracial, Mayra et Rodrigo. Elle est noire et chercheuse en sciences politiques. Lui, il est blanc, descendant de portugais et comptable. Ils sont en couple depuis 5 ans.
Para mim nunca foi uma questão. Meu pai muito menos, mas tinha algumas partes da família.
Pour moi, ça n'a jamais été un sujet. Pour mon père non plus. Mais pour d'autres personnes, si. Comme pour ma grand-mère, décédée aujourd'hui, qui aimait beaucoup Mayra, mais venait d'un contexte familial et d'une éducation très raciste. Donc, du côté de la famille de mon père, il y avait quelques aspects plus compliqués.
Muito do contexto de Mayra estar presente parece que é uma situação muito diferente.
Par exemple, il donnait parfois l'impression que la présence de Mayra changeait totalement la situation. Ils en faisaient trop, ils la dévisageaient, lui posaient trop de questions sur tout, alors qu'en fait, c'est seulement ma copine, il n'y a rien d'extraordinaire.
Et vous, Mayra, comment vous vous êtes sentie dans cette famille ?
La partie de la famille de Rodrigo avec qui j'ai le plus de contacts m'a toujours respectée, et je pense que ceux qui n'étaient pas d'accord ne se manifestaient pas. On n'a pas vraiment eu de problème dans le contexte familial, mais ça a été plus compliqué avec ses amis de la fac, par exemple, qui ont été surpris que je sois sa copine. Une fois, on était quelque part, et Rodrigo a mentionné qu'il était venu avec moi, sa copine. Quand son ami lui a demandé de me montrer du doigt, de loin, il semblait ne pas voir. Pour lui, c'était inconcevable que ce soit moi. Et il pensait que c'était la fille d'à côté, blanche, et pas moi, noire. Donc je pense que les situations les plus compliquées, ça a été avec des personnes qui ne sont pas de la famille, plutôt.
Comment vous sentez le regard de la société sur votre couple ?
On a commencé à sortir ensemble et en même temps jouer beaucoup dans des groupes de musique de carnaval. Et pour moi, ça a été très choquant pour notre premier carnaval ensemble de voir comme les gens ne nous considéraient pas comme un couple. Évidemment, c'était à cause de notre couleur. Beaucoup d'autres femmes l'abordaient sans respecter le fait que nous étions un couple. Mes amis, hommes et femmes, tout le monde remarquait ça. C'est toujours une surprise pour les autres de savoir que nous sommes un couple et que je sois sa copine encore plus que le fait qu'il soit mon copain. C'est fou, mais j'ai l'impression que pour la société, le fait que ce soit mon copain, c'est censé être une certaine valorisation pour moi, alors que le contraire est un choc, qu'une personne comme lui soit en couple avec une personne comme moi. Et nous parlons d'un environnement très progressiste, notre bulle sociale est très progressiste. Nous fréquentons des groupes de carnaval de gauche, mais malgré ça, ce choc existe, car la question raciale est tellement complexe au Brésil, le racisme est encore tellement ancré que les milieux progressistes n'y échappent pas.
Est-ce que vous avez l'impression que vous venez de cultures différentes ?
Il n'y a pas de choc culturel entre nous, nous avons une culture plutôt homogène, mais il existe un choc social. Par exemple, je ne sors jamais de chez moi sans mes papiers, alors que Rodrigo les oublie systématiquement, même si aujourd'hui, moins.
Oui, moi j'avais une moto depuis plusieurs années, et à partir du moment où j'ai commencé à conduire avec Mayra, j'ai été arrêté 4 fois par la police en 1 an, alors que les 3 années auparavant, c'était peut-être 1 fois par an. Ça veut déjà dire beaucoup de choses.
Et puis, quand on est arrêté par la police, il y a une certaine façon de parler. Je ne peux pas répondre de la même façon que lui. Lui, il parle sur le ton qu'il veut, mais moi, je dois toujours être beaucoup plus calme. Ce sont des situations que je vis dans mon pays, comme toutes les autres personnes noires, mais dont les personnes blanches ne connaissent rien, parce qu'elles naissent libres, tandis que nous, nous devons survivre. Ça a toujours été un thème de conversation chez moi. On nous a toujours inculqué la notion de comment la société nous voyait et comment nous pouvions contourner cet état de fait. Comment vivre et survivre dans un monde où nous ne sommes pas les bienvenus, mais où nous avons autant le droit de vivre que n'importe quelle autre personne. Je pense que quand nous aurons des enfants, ils seront métis, évidemment, et nous allons devoir parler de ces sujets pour qu'ils comprennent comment fonctionne le monde et comment vivre avec ça.
Vous voulez avoir des enfants, comment est-ce que vous imaginez l'éducation et la conscientisation de cet enfant qui viendra d'un papa blanc et d'une maman noire ?
Pour moi, la priorité sera toujours qu'il ait une éducation avec une école qui parle ouvertement des sujets raciaux, de racisme et qui valorise les personnes noires. Parce que j'ai grandi dans un monde où le modèle était toujours blanc et je ne veux pas de ça chez moi aujourd'hui. Je veux que mes enfants comprennent qu'ils peuvent être qui ils veulent, comme mes parents me l'ont fait comprendre. Je veux qu'ils se sentent représentés. Je pense qu'il est très important de parler de l'histoire de la population noire avec un point de vue noir. Parce qu'on apprend toujours ça avec un point de vue de blanc, où nous ne sommes jamais les protagonistes.
Pour vous, vos enfants seront métis ou noirs ?
Probablement, dans la société.
Il est fort probable qu'ils soient traités comme des personnes noires dans la société. Moi, je sais que je vais avoir beaucoup à apprendre, parce que Mayra a évidemment vécu une enfance complètement différente sur tous ses aspects. Et je vais devoir apprendre à vivre et éduquer un enfant dans une réalité que je n'ai jamais vécue.
Voilà, c'est l'histoire de Mayra et Rodrigo, micro de notre correspondante Sarah Cozzolino à Rio de Janeiro. Solène Brun, je voyais prendre plein de notes sur votre petit carnet. Que vous inspire ce couple brésilien qui déjà d'ailleurs imagine un petit peu que leurs futurs enfants métis seront regardés et traités comme des enfants noirs, hein, c'est ce qu'ils disent.
La chose qui m'a frappée d'emblée, c'est à quel point le Brésil, comme pays, comme nation, porte sur lui-même un discours depuis des années qu'on dit de démocratie raciale, mmh. cette idée que ce serait un pays justement très métissé, dans lequel finalement il y aurait ce mélange-là. Et là, on voit pour le coup un couple aujourd'hui qui raconte à quel point le racisme est présent et définit l'existence des gens, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs pour le coup. Et je trouve que c'est déjà très frappant de voir à quel point bon, cette histoire de démocratie raciale et de métissage heureux qui a voilà, une longue histoire aussi au Brésil est y compris assez mythique dans le sens qu'elle ne se traduit pas vraiment dans les faits. Puis ensuite, ce qui me frappe, c'est à quel point finalement... Alors, leur récit me fait penser à des récits que moi j'ai entendus dans ma propre enquête. Avec peut-être comme différence le fait que au Brésil, comme dans d'autres pays pour le coup du continent américain, la question raciale est plus directement abordée qu'en France. Et donc il y a un discours chez Mayra notamment qui est très explicitement racial sur la question noire, la question de raconter une histoire d'un point de vue noir qu'on entend moins en France.
Oui, ça c'est sûr, mais on l'entend peut-être moins, mais vous le racontez, Solène Brun, dans votre enquête auprès de ces couples mixtes, se pose la question, la peur aussi du racisme ordinaire, entre guillemets, et notamment de ce que pourront affronter plus tard leurs enfants quand ils vont grandir à l'adolescence. Et ça, c'est un vrai sujet qui circule dans ces couples et dans ces familles-là. Il y a une vraie inquiétude là-dessus.
Oui, tout à fait, il y a une inquiétude. Alors, elle n'est pas partagée par tous les couples que j'ai rencontrés, ça faut le dire. Y compris, j'ai l'impression que l'inquiétude est plus forte chez les plus jeunes. C'est-à-dire des gens qui, pour le coup, ont fait des enfants après cette période des années 90.
Ouais.
Mais oui, il y a une inquiétude, surtout dans les couples dans lesquels le parent minoritaire est racialisé comme noir ou comme arabe, avec cette idée que ce sont les groupes les plus durement visés par le racisme en France, ou en tout cas par notamment le racisme policier. Et ça, c'est vrai que ça fait écho à ce que les deux personnes dans le reportage racontent sur cette idée même qu'on découvre un peu une partie du monde, de son propre pays, on découvre un pan de l'existence dont on n'avait jusque-là pas conscience quand on est blanc et qu'on se met en couple avec une personne non blanche.
Ouais, avec cette question qui revient de façon un petit peu générale dans tous les couples, c'est une question, c'est pour ne pas être stigmatisé, c'est quel prénom on va donner à notre enfant. C'est une vraie question ça en fait, hein, qui peut d'ailleurs peut-être provoquer des prises de tête en couple, non?
Oui, bien sûr, parce qu'en fait...
Vous avez des exemples concrets comme ça, d'histoires qui vous reviennent
Bah oui, cette question du prénom, elle vient cristalliser... plein d'enjeux. En fait, il y a évidemment la question du racisme, même si, y compris pour certains couples, elle n'est pas centrale. Mais il y a la question aussi des différentes transmissions, c'est-à-dire dans quelle lignée on va inscrire les enfants. Et en fait, il y a quelque chose qui revient dans la majorité des couples mixtes, c'est de choisir en fait un prénom que je dis intermédiaire ou un prénom qui passe. Et c'est ce que raconte un de mes enquêtés. J'aime bien sa formule. Il dit ce prénom un peu berbéro-breton, comme Naël.
Berbéro-breton,
voilà.
Un mixte.
Qui est un prénom qui pourrait finalement avoir différentes origines et n'être pas si facilement catégorisable.
Ouais, c'est ça. Forcément, la notion de stigmatisation. On a un appel. Je propose qu'on aille du côté du Congo.
8 milliards de voisins sur WhatsApp, 33-7, 64-45, 51-41.
Et c'est Arlette qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo. Bonjour Arlette.
Bon, Bonjour les voisins, les voisines.
Merci d'être avec nous. Alors Arlette, vous-même, vous êtes en couple 100% congolais, comme vous nous avez raconté, pour préparer cette émission. Alors racontez-nous, vous avez vécu avec un autre couple en colocation pendant 2 ans. C'était un couple congolais russe, hein, c'est ça. Et je crois savoir qu'il vous faisait rêver, ce couple-là. Racontez-nous.
Ben, c'était un couple soudé, attaché, qui avait beaucoup de sorties au restaurant, des soirées, des voyages en amoureux, des causeries avant et après le boulot.
Oui.
Tout était stimulant. Ben, moi, de mon côté, c'était ennuyeux. Il arrive même que ma coloc vient se plaindre du bavardage de son époux et moi, je me plaignais du manque de stimulation de mon couple.
Ça vous fait rire, remarquez, c'est bien. Mais pourquoi vous avez l'impression que pour eux, c'était quoi? C'était plus... du fait qu'ils aient des origines différentes entre eux, vous avez l'impression que c'était plus stimulant?
Oui. Surtout l'histoire de langue. Quand chacun parlait dans sa langue, c'était magique.
C'était magique.
Quand l'autre était en colère pour décharger son sac dans sa langue, c'était magique. Ça se réconciliait très vite.
Et ça vous fait rire. Et vous avez l'impression, à côté de ça, de vous ennuyer un petit peu, alors?
Très, très ennuyeux. Donc, moi, je voulais poser la question aux invités, mais
oui,
pourquoi dans les couples mixtes, c'est très stimulant, il y a de la créativité dans la majorité des cas?
Alors, on va poser la question à notre invité. Je ne sais pas si elle aura la réponse, Solène Brun, ou est-ce que c'est peut-être une image qu'on peut aussi avoir idyllique comme ça? Est-ce que, quelque part, ça fait écho au couple que vous avez rencontré d'origines différentes ou de cultures différentes?
Je pense que forcément, quand on mélange des origines, en effet des langues, des héritages différents, peut-être qu'on multiplie les possibilités de discussion. Je pense qu'on peut aussi multiplier les possibilités de...
D'engueulade.
Ou de mauvaise compréhension. Donc je pense que peut-être que finalement tout ça fait que le couple est vivant. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est la différence de langue. Je trouve ça assez rigolo. Les usages de la langue, justement, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans certains couples qui parlent en effet des langues différentes que j'ai rencontrées et qui, en effet, quand ils grondent les enfants, quand ils engueulent les enfants, ils parlent dans leur langue maternelle et donc ça, voilà, ça crée là, à cet endroit, un usage de la langue que je trouve intéressant.
Et les gros mots dans la langue maternelle. Voilà. Bon, ça va, vous êtes heureuse quand même dans votre couple, Arlette, même si c'est...
Ah. Je ne peux pas tout dire, mais c'est pas stimulant.
Stimulant, j'ai
vu. D'ailleurs, l'herbe paraît plus verte quand c'est vraiment un couple mixte.
Eh ben, allez savoir. Alors, peut-être... bon, voilà. On en reparlera dans une prochaine émission. Mais en tout cas, gardez le sourire et votre belle joie, Arlette. Merci beaucoup. Oui, dans les couples aussi, la transmission... On dit souvent que la transmission se fait souvent par les mamans. Là, vous parliez de la langue. À quel moment on se dit, on parle telle langue ou les deux langues à la maison? Parce que vous avez rencontré essentiellement des couples dont la maman est blanche, hein, c'est ça, non?
Alors non, en effet, c'est assez équilibré. C'est aujourd'hui d'ailleurs assez équilibré en France, mais bon, ça ne l'a pas toujours été, évidemment, notamment parce que ces couples mixtes, ils dépendent des vagues migratoires. Et donc, d'abord, ça a été beaucoup des couples dans lesquels, en effet, les épouses étaient blanches, françaises, et les époux... avait une origine étrangère puisqu'il venait pour le travail. Mais la transmission des langues, ce qui est intéressant, c'est que bon, quand on regarde un peu les données statistiques, en l'occurrence, on transmet moins la langue, enfin une autre langue que le français, que je vais appeler langue minoritaire dans le contexte français, dans les couples mixtes que dans les couples où deux personnes sont immigrées, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi un peu les variations en termes de classe. Et alors là, on a des transmissions qui se font à la fois chez les classes populaires, mais aussi, et ça c'était quelque chose que je n'avais pas anticipé dans l'enquête, des transmissions qui se font dans certains segments des classes supérieures, notamment à fort capital culturel. Et je pense par exemple à une enquêtée qui me racontait que... Elle a appris le farsi à sa fille, donc elle est, elle, d'origine iranienne. Et un jour, la directrice de l'école de sa fille la convoque pour lui dire qu'il faudrait qu'elle arrête de parler sa langue maternelle à sa fille parce que ce serait mauvais pour son apprentissage scolaire. Mmh. Et cette personne a refusé. Elle lui a dit, ben non, c'est important pour moi de transmettre ma langue à ma fille. Et il se trouve que cette femme vient plutôt de la bourgeoisie culturelle iranienne. Et je pense que en réalité, pour s'opposer, par exemple, aux injonctions à l'assimilation ou à l'injonction là de l'institution scolaire, il faut en effet avoir une certaine assurance de son propre capital culturel et que pour voilà résister un peu à certaines injonctions, il faut avoir par ailleurs cette assurance que permet certaines positions de classe. Donc, je trouve ça aussi intéressant de rentrer vraiment dans le quotidien de ces familles pour essayer de voir voilà ces cas qui sont pas forcément les plus nombreux, mais qui nous disent certaines choses aussi de leur quotidien.
On a un nouvel appel et là, on va du côté de la Guinée.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Good morning, bonjour.
Salut les voisins.
Salam alaikum.
Mathias Violo.
Buenos dias.
À quoi va les voisins et les voisines.
Et nous sommes en compagnie de Malcolm qui nous appelle de Banco d'Abola. Bonjour Malcolm.
Bonjour, 8 milliards de voisins, bonjour à tout le monde.
Et bonjour à vous. Alors, Malcolm, vous venez d'une famille malinquée, hein, c'est ça? Et chez vous, je crois savoir que c'est pas très 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 bien vu si un homme souhaite épouser une femme d'une autre ethnie. Hein.
Et tout à fait, exactement. Moi, je suis, comme vous l'avez si bien dit, je suis issu d'une famille malinquée.
Oui.
Un exemple typique d'un frère, grand frère, donc, qui est décédé. Il était premièrement marié d'une femme issue donc de l'ethnie malinké,
oui.
De sa propre ethnie. Un peu plus tard, il s'est marié à une deuxième femme issue d'une famille Peul.
Peul.
Exactement, Peul, oui.
D'accord.
Ce couple mixte, du côté de mon grand-père, a créé assez de problèmes, assez de polémiques au sein du foyer, au sein de la famille. Entre notamment ici les enfants. Bon, ça n'a pas pu vraiment unir les enfants au sein de la famille.
C'est-à-dire que quoi, il y avait une épouse qui voulait imposer sa langue à ses enfants, c'est ça?
Tout à fait.
Oui, j'essaie de vous suivre. Ah oui.
Notamment la deuxième épouse.
Oui.
Et qui était venue, surtout, il n'y avait pas du tout d'entente entre la seconde et la première.
Eh oui.
Elle ne s'entendait pas. Mmh. Parce que la seconde ne voulait nullement pas que ses enfants parle de la langue parlée par son époux. C'est très, très, très compliqué. Parce que là, quand vous voyez, donc c'est dû à toutes les polémiques qui s'y passaient entre les deux épouses.
Et vous êtes en couple, vous, Malcolm, ou pas?
Moi, pour l'heure, non.
Pour l'heure, non. Bien noté. Merci beaucoup pour votre témoignage, Malcolm, du côté de la Guinée-Conakry. Solène Brun, est-ce que tout au long de cette enquête-là, auprès de tous ces couples mixtes, est-ce que vous parlez des enfants, le prénom, choisir le prénom, le poids de la famille, des parents, parce qu'il faut en parler aussi. Mm-hmm. Est-ce que ça a provoqué est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des non-dits aussi et que la réponse de monsieur n'était pas forcément celle de madame et que ça a soulevé aussi des questions un petit peu taboues.
Alors tabou, je ne sais pas, mais en effet, certains entretiens que j'ai menés avec donc les deux parents ensemble. Mmh. Et en effet, à certains moments, je m'aperçois dans la discussion que je pose des questions qui n'ont jamais été, dont j'ai l'impression en tout cas, qu'elles n'ont jamais été abordées de cette manière dans le couple.
Par exemple
Justement, parce que je rebondis sur l'appel de votre auditeur, je pense que vraiment quelque chose qui revient tout le temps, quelle que soit d'ailleurs du coup la définition de la mixité qu'on retient, hein, puisqu'on voit que là, tout le monde, en fait, couple mixte, ça peut vouloir dire plein de choses. Et donc, pour certains, en effet, un couple malinqué Peul est un couple mixte. Et donc, en fait, la question qui revient beaucoup, c'est la question des familles élargies. C'est-à-dire, qu'est-ce que vont penser les grands-parents? Qu'est-ce que vont penser la famille élargie? Et là, quand je posais ces questions au couple que je rencontre, je me rappelle de deux couples dans lesquels, en fait, le conjoint qui est dans les deux couples, le conjoint est blanc, et finit par m'expliquer que, quand même, ça n'a pas posé problème dans leur famille, mais ils ont prévenu en amont. Ils ont dit, elle est noire. Et dans les deux cas, les compagnes sont étonnées. Elles disent, mais comment ça t'as prévenu? Pourquoi il fallait prévenir? Et ce qui en fait montre à quel point finalement, même dans les familles dans lesquelles ça se passe relativement bien, il y a quand même cette idée qu'il faut prévenir.
C'est ça.
Ça coule pas de source.
Ça, c'est vrai, forcément. Je vous propose d'écouter un message audio que nous a laissé un auditeur.
Je suis Hassan, je vous appelle de Dakar au Sénégal. En fait, moi, je suis en fiançailles avec une des Boudes depuis 2016 et tout se passe très bien entre nous. Mais on a une difficulté pour officialiser notre mariage car la famille de la fille réclame une grosse somme, comme d'autres. Par contre, moi et ma famille, on n'est pas dans cette logique comme nous, on est des Bambara. Moi, mais si moi, en personne, j'aurais cette somme, tout ce problème sera derrière nous. Elle a aussi compris et m'a laissé un temps chercher de l'argent pour satisfaire sa famille. Et nous avons fixé une date qui est l'année 2025 et on est tombé d'accord sur cette date. Mais si je n'ai pas pu avoir cette somme, je serai obligé de la libérer pour ne pas perdre son temps.
Merci beaucoup Hassan pour votre message du côté de Dakar. La question du mariage, pour rebondir sur ce que vient de dire notre auditeur, et de l'argent, avec la pression des familles, on y revient, surtout si on n'est pas forcément de la même ethnie. Solène Brun, dans tous les enquêtés que vous avez pu rencontrer, le mariage, oui, mais selon quel rite ou pas, c'est une question qui est revenue aussi, ou pas tant que ça?
Alors pas tant que ça dans les couples que j'ai rencontrés, moi, je pense que c'est lié aussi à quand même une assez grande sécularisation de la société française, je pense. Après, se pose la question, alors plus que le mariage, par exemple, dans les couples où un conjoint est musulman, dans les couples que sur lesquels moi j'ai enquêté, se pose assez vite la question de la circoncision, si un des enfants qui naît est un garçon. Question qui d'ailleurs se pose souvent avant même la naissance, c'est-à-dire que là pour le coup, un peu un résultat de l'enquête, c'est que dans l'ensemble, les couples se posent quand même peu la question avant la naissance des enfants, surtout des enjeux que ça va poser. Puis après, on réagit un peu au fur et à mesure que les questions se posent et arrivent. Mais par contre, sur la question de la mixité religieuse et avec un conjoint musulman, deux questions un peu très, que je dirais un peu pratico-pratiques, se posent quand même rapidement avant la naissance. C'est la question de la circoncision, est-ce qu'on va circoncire ou pas, et est-ce que les enfants vont manger du porc ou pas. Et donc là, les questions vont se poser, des négociations peuvent avoir lieu dans les couples. Et,
des alors, négociations, oui, ça... compliqué quoi, j'imagine.
Ouais. Potentiellement compliqué. Ouais. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'essayer de voir, en fait, la négociation entre les couples, c'est forcément la mise en jeu d'un certain rapport de force. De toute façon, il y a un rapport de force dans chaque couple, déjà parce que, alors j'enquête sur les couples hétérosexuels, mais donc il y a un homme, une femme qui n'ont pas le même rapport de force du point de vue du genre, mais aussi des couples qui n'appartiennent pas forcément aux mêmes classes sociales, et donc là, ça va rajouter des éléments. Et évidemment, puisque les couples sont des couples qu'on pourrait dire interraciaux, ceux sur lesquels j'enquête, il y a aussi du coup qui en fait a le pouvoir dans ce rapport de domination là, et donc ça donne lieu à des discussions, à des négociations qui sont pas forcément houleuses, mais qui vont mettre aussi en lumière, et c'est ce qui m'intéresse, un peu les intérêts, les envies de chacun et la manière dont justement ces négociations se résolvent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, une constante quand même, c'est que les tâches domestiques et aussi le soin et l'éducation des enfants repose encore très largement dans ces couples comme dans tous les couples sur les femmes. Et donc la capacité des femmes à prendre en charge va être une grosse question dans l'ensemble des couples.
On parlait de rapports de force dans des cultures qui sont parfois plus machistes que d'autres. On avait le message de Carmine de Cotonou au Bénin qui nous racontait qu'elle était en couple avec un martinico-guinéen. Elle est congolaise de Brazzaville. Et puis ça s'est devenu très très compliqué. Hein. C'est ce qu'elle nous avait écrit lorsqu'ils ont emménagé ensemble il y a 4 ans, en disant, et après, il a adopté le machisme des hommes de Cotonou, je lis ce qu'elle nous raconte. Elle dit finalement, nos différences de culture, quelque part, nous ont séparés. Est-ce que c'était une question, ça, qui revenait ou pas chez les couples que vous avez pu rencontrer? Ils étaient toujours en couple, il n'y avait pas eu de séparation, mais en se disant, aussi, nos différences peuvent aussi nous éloigner, nous enrichir, certes, mais nous éloigner...
Alors, certains sont séparés. Certains des parents que je rencontre sont séparés. Sur la distance culturelle, en tout cas, ça n'a pas été mentionné en entretien. Mais je me rappelle d'un enquêté qui, lui, parle plutôt justement de la différence de positionnement vis-à-vis du racisme, en fait, qui, là, a pu occasionner des tensions avec sa compagne et la mère de leurs deux fils. Bon, en fait, finalement, ce que disait aussi tout à l'heure le conjoint originaire du Brésil qu'on a entendu plus tôt, qui disait, mais en fait, finalement, moi, il va falloir que, il va falloir que j'apprenne. Enfin, j'ai plein de choses à apprendre si on veut avoir des enfants, parce que je vais devoir élever un enfant qui va avoir des expériences que moi, j'ai jamais eues. Mmh. Et donc, ça, c'est le cas. C'est-à-dire que les parents blancs se retrouvent en position de devoir élever des enfants qui, dans la grande majorité des cas, sont eux perçus comme non blancs. De manière très majoritaire, et donc naviguent un monde dans lequel ils sont assignés à une position minoritaire, sont potentiellement victimes de racisme. Et ça, parfois, les parents blancs n'en prennent pas forcément la mesure, sous-estiment peut-être la question du racisme. Et je me rappelle de cette enquêtée qui racontait que ça avait créé un peu de distance avec sa compagne sur ce qu'il dit, une différence de positionnement. Il dit « je me suis aperçue qu'on parlait plus tout à fait du même endroit ».
C'est ça. Pour terminer, un petit mot sur la représentation des couples mixtes au cinéma. On écoute ça, légèrement caricatural, et on va voir ce que vous en pensez.
Et comment s'appelle l'heureux élu ?
Chao, Pierre, Paul, Ling, Rachid, Abdul, Mohamed, Benassem, David, Maurice, Isaac, Benichou.
Tout le monde sourit ? J'en vois deux qui sourient pas, là. Bougeons plus.
Si on les invitait à Noël ?
Comment ça, on va passer Noël chez tes parents ?
On évite tous les sujets qui fâchent, hein. Israël, le Dalaï Lama, la burqa.
Il y aura Jackie Chan et Arafat ?
Il y aura Kadhafi, Enrico Macias ?
Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek.
Surtout, pas un mot sur l'équipe de France de foot.
Et si quelqu'un balance un cliché sur les Juifs ? Tu laisses couler.
Si quelqu'un fait l'amalgame entre immigration et délinquance, toi, tu dis rien.
Et s'il y en a un qui balance une vanne sur les Chinois, je fais quoi ?
Tu souris.
Je fais le Chinois, quoi, en fait.
Ah, le nouache. Suze-boule en chef, quoi.
Je pensais à votre petite dernière. Elle se mariera peut-être avec un catholique.
Je vais me marier. Il est catholique, oui ?
On se réjouit.
10 minutes de retard, on est au moins sûr d'une chose, c'est pas un Chinois. Hein. Oh. C'est Véturier.
Je vous présente Charles. Hey,
3 métèques plus un noir, pour tes parents, c'est Fukushima.
La bande originale, je voyais sourire, hein, du film français Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, avec Christian Clavier et Chantal Lobby. Dans les rôles de parents blancs, bourgeois, cathos, on peut le dire un brin raciste, hein, quand même, désespérés que leurs 4 filles épousent un juif, un arabe, un chinois, un noir. Bon, comédie volontairement caricaturale, je vois sourire et en même temps...
Et en même temps, lever un peu les yeux au ciel. Alors, je souris parce que je suis à la fois amusée, un peu fascinée, moi, par ce film, un peu atterrée,
fascinée,
évidemment.
Oui.
Alors, déjà, je suis assez fascinée parce que ce film, qui est donc une mise bout à bout, je pense, de tous les poncifs, racistes, culturalisants auxquels on peut penser, qui finalement, sous couvert de les dénoncer, passe beaucoup de temps à les énoncer. Alors, c'est quand même pas très clair. Puis surtout, moi, ce que j'ai trouvé impressionnant avec ce film, c'est qu'il a eu un succès phénoménal en France.
D'abord, il y en a eu plusieurs, en plus. Hein,
déjà, il y en a eu plusieurs, mais du coup, le premier volet, j'avais regardé, est rentré au top 20 des films qui ont eu le plus gros succès de tous les temps en France. Mais finalement, ce film, je pense que s'il a eu un aussi grand succès, c'est qu'il remplit une certaine fonction. Je pense là, c'est la sociologue qui parle, mais je suis assez convaincue. Parce que, en fait, ce film, il nous raconte donc évidemment cette histoire de elle ramène donc après l'arabe, le juif,
le chinois
manquait plus qu'un noir, et donc il arrive, et puis donc c'est l'histoire de ce qui amène au mariage donc entre la dernière des filles Verneuil et un noir, puisque c'est comme ça qu'il est désigné, Charles Coffey dans le film, joué par Noomi Diawara. C'est en fait quelque chose qui revient, c'est que finalement, certes, le couple des parents est raciste, mais finalement, tout le monde est raciste.
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait.
Et c'est d'ailleurs un des propos principaux, je pense,
c'est
du
vrai,
film, qu'on
vrai.
Veut nous donner à voir, c'est que finalement, on a tous un petit côté raciste. C'est une réplique du film. Et d'ailleurs, celui qui s'oppose le plus au mariage, donc au mariage qui va avoir lieu, c'est pas le père Verneuil, le père blanc, catho, réactionnaire, mais c'est le père de Charles Kofi, qui est joué par Pascal Nzonzi, qui, voilà, lui, n'en démord pas. Il est hors de question que son fils épouse une blanche. Et finalement, c'est d'ailleurs le père Verneuil qui va le convaincre. Quoi.
C'est ça.
Et donc, je pense qu'il y a plusieurs, choses dans ce film. Il y a cette idée que finalement, bah, on est tous un peu racistes. Et finalement, donc, dans ce cas-là, le racisme n'est pas vraiment un rapport de domination entre un groupe dominant et des groupes dominés. Ce serait finalement quelque chose, juste une affaire de goût et de dégoût personnel. Et puis surtout, bah, finalement, le racisme va être vaincu par le mariage et le remariage.
Et on y revient.
Et on y revient. Mmh. En effet, cette idée que la solution au racisme, c'est l'amour. Et avec, finalement, la réconciliation de tous et toutes par ce mariage. Et je pense que, voilà, c'est vraiment une continuation de ce discours-là sur, finalement, la solution, c'est le métissage.
Eh ben non, c'est plus compliqué que ça. Et on a bien compris que c'était pas votre film préféré. Merci beaucoup, en tout cas, Solène
Herbelin.
Je rappelle votre livre enquête passionnant. Ça s'appelle « Derrière le mythe, métisse. Enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France ». Et c'est aux éditions La Découverte. Merci. Allez, on se quitte tout sêtement avec Mumford & Sons, c'est Pharrell Williams, c'est Good People sur RFI. C'était Good People sur RFI. 8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe. Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine Cachin et Tom Malky. Lundi, vous retrouverez à la même heure Emmanuel Bastide pour une émission sur la transmission d'entreprises en Afrique. Une vraie question qu'il faut anticiper. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain. D'ici là, beau week-end à l'écoute de RFI.